Bonjour et bienvenue dans cette sous-partie du guide sur l'alimentation méditerranéenne qui a été identifié par la science comme l'un des modes alimentaires les plus sains au monde. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de décortiquer ce mode alimentaire et de l'intégrer dans les bonnes pratiques du guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale. Parmi les aliments vertueux de la diète méditerranéenne, on retrouve justement les oléagineux, qui, comme nous l'avons rappelé dans le chapitre introductif précédent, se décomposent en trois sous-catégories. Les fruits secs, qu'on appelle également par extension les fruits à coque, donc les amandes, les noix, les noisettes, les pistaches, etc. Les graines oléagineuses, comme les graines de colza, de tournesol, de soja, de sésame, de lin, etc. Et enfin, les fruits frais oléagineux, comme l'avocat, l'olive ou la noix de coco. Ce sont précisément les fruits secs oléagineux que nous allons traiter dans ce podcast. Comme nous l'avons rappelé, toujours dans le chapitre introductif précédent, les oléagineux ont de nombreuses vertus pour la santé, en particulier lorsqu'ils sont consommés en petites quantités dans le cadre d'une alimentation globalement saine, c'est-à-dire faible à tempérer en glucides, équilibrée en bonnes graisses et modérée en protéines, qu'elles soient animales et ou végétales. En protéines d'ailleurs de qualité, bio et faible en produits transformés. Une alimentation qui est somme toute à la croisée de l'alimentation méditerranéenne et low carb. Toutefois, les propriétés nutritionnelles des oléagineux ne se valent pas forcément. Et c'est ce que nous allons voir dans les informations qui vont suivre et qui sont d'une importance capitale afin de mieux envisager la consommation de ce genre d'aliments. Ce chapitre aura pour vocation d'aider à identifier, parmi les noisettes, les amandes ou les noix par exemple, quels sont les fruits secs oléagineux à privilégier pour la santé et pour la ligne, en fonction de leurs apports en antioxydants, de leur balance oméga-3-oméga-6 et de leur teneur plus ou moins élevée en acides gras saturés. Cette partie ne concernera que les fruits secs oléagineux, et nous aborderons les graines oléagineuses et les fruits frais oléagineux dans les podcasts suivants. En fonction de certaines diètes, nous allons voir qu'il vaut mieux en privilégier certains au détriment d'autres, tout en apprenant à quantifier leur consommation afin d'en tirer le meilleur pour la santé. Pour bien comprendre ce podcast, il faudra néanmoins reprendre celui consacré à l'apport optimal en protéines, en glucides et en lipides, c'était le podcast précédent, et qui expliquait comment mettre en place un bol alimentaire idéal qui respecte notamment la bonne répartition en matière grasse. Une fois ce chapitre compris, on sait alors comment respecter les apports recommandés en oméga 3, en oméga 6 et en oméga 9, mais aussi en graisse saturée. Voici donc la liste ultime des fruits secs oléagineux, leurs caractéristiques propres, leurs vertus et enfin ceux qu'il faudrait privilégier et dans quel contexte. Le contenu qui va suivre est un extrait gratuit du podcast complet dédié aux fruits secs oléagineux et que vous retrouverez sur le site blueness.com. Alors commençons tout d'abord par l'un des fruits secs oléagineux les plus connus, à savoir l'amande. L'amande est un fruit sec oléagineux qui est d'origine proche-orientale. Elle est toujours d'ailleurs très consommée là-bas, que ce soit nature ou dans les pâtisseries orientales. L'amande s'est élargie dans tout le bassin méditerranéen sur le plan historique, puis dans d'autres régions arides du monde. La consommation d'amandes, notamment, serait particulièrement efficace pour réduire le risque de maladie cardiaque, car les nutriments qui sont contenus dans les amandes améliorent la santé des vaisseaux sanguins, ainsi que la fonction artérielle. Leur richesse en magnésium est bénéfique pour le système nerveux et la relaxation des muscles. Leurs antioxydants permettent de lutter contre le vieillissement cellulaire et pourraient diminuer les risques d'apparition de cancer, tandis que leur teneur en vitamines et en minéraux permettrait de lutter contre le déclin cognitif, notamment grâce à la présence de la riboflavine et la L-carnitine qui permettent de prévenir efficacement la maladie d'Alzheimer. Enfin, les études semblent montrer que la consommation d'amandes en petite quantité aurait un effet hypocholestérolémiant, c'est-à-dire qu'il ferait baisser le cholestérol, en particulier le LDL. Enfin, les amandes sont riches en protéines, en vitamines du groupe B et E, en magnésium, en phosphore et en fibres. Et elles ont un faible index glycémique. Elles permettent donc de prévenir certaines maladies chroniques, comme le diabète, et elles permettent d'améliorer la sensibilité à l'insuline, ce qui va, comme vous le savez maintenant, dans le sens d'une meilleure santé générale et d'un poids contrôlé. L'amande a une charge glycémique très basse, de 3. Elle contient plus de 20 g de protéines au 100 g, seulement 5 g de sucre au 100 g, seulement 1 g d'amidon et environ 12 g de fibres, ce qui en fait un très bon aliment dans une diète modérée en glucides. Par ailleurs, elle contient seulement 3,9 g de gras saturé et plus de 30 g d'acides gras monoinsaturés, ce qui en fait un aliment sain, méditerranéen typique. En revanche, il ne faut pas abuser des amandes, étant donné tout d'abord leur densité calorique, mais aussi leur apport quasi inexistant en oméga-3, ce qui leur confère une balance oméga-3-oméga-6 un peu défavorable. Néanmoins, même si ce ratio joue en la défaveur de l'amande, les graines oléagineuses de manière générale ne sont pas des aliments de base des repas, mais plutôt des aliments complémentaires, à la marge, qui vont venir agrémenter des salades ou tout simplement servir de collation à raison d'une petite poignée de temps en temps. Leur intérêt est donc à la fois gustatif et nutritionnel, mais ils ne sont par nature pas des aliments forcément adaptés à consommer en quantité, puisque ce sont des aliments extrêmement denses, caloriques, rassasiants et très plaisants sur le plan gustatif. Donc, on doit les limiter, comme nous l'avons dit, à raison d'une petite poignée de temps en temps et pas d'un sachet entier. Le ratio oméga-3-oméga-6 défavorable des amandes peut donc largement être compensé par une alimentation globalement anti-inflammatoire, riche en oméga-3 et donc typiquement blueness compatible. Côté vitamines et minéraux, l'amande présente un profil là aussi extrêmement dense et quasi unique dans son genre. D'une part, elle est riche en magnésium, qui sera utile, si on veut simplifier au maximum, pour limiter l'immunité, les muscles, les os et le système nerveux. L'amande est également riche en manganèse, donc un antioxydant, et qui est utile pour le métabolisme. Riche également en cuivre, donc utile pour l'hémoglobine et les tissus. En phosphore, utile pour les os, les dents et plus généralement les tissus. En fer, vous le savez, donc utile pour l'oxygène et les globules rouges. En zinc, utile pour l'immunité, la testostérone, et c'est également un antioxydant. En calcium, utile pour la santé osseuse, musculaire et sanguine. Et enfin en potassium, qui est, dans de petites quantités, attention, utile pour la santé cardiaque. D'autre part, l'amande est une bonne source de vitamine E, pour l'immunité, de vitamine B9, le folate étant utile pour les systèmes nerveux immunitaires, ainsi que pour la production du matériel génétique, et notamment lors de la grossesse. Et enfin, c'est une bonne source de vitamines B1 et B2, qui agissent dans le métabolisme énergétique. En résumé, en ce qui concerne l'amande, on peut dire qu'il y a peu de glucides nets, ça c'est une bonne chose. Il y a un apport neutre, important mais neutre, en oméga-9, ce qui est une bonne chose aussi, un apport tout de même important en oméga-6, ce qui signifie qu'il ne faut pas en abuser et en manger non plus tous les jours. Il y a un manque d'oméga-3, ce qui, théoriquement, joue en la défaveur de l'amande, mais comme nous l'avons dit, si, globalement, on a un apport en oméga-3 par ailleurs, cela ne devrait pas poser de soucis si on en consomme de façon plus ou moins régulière, sans en abuser. Enfin, l'amande dispose de peu de gras saturé, là encore c'est une bonne chose, et d'un bon apport en protéines, ce qui est une excellente chose. Ça en fait donc un très bon choix de collation dans des proportions raisonnables et une collation qui est compatible dans des proportions très faibles avec une diète cétogène et totalement compatible avec une diète généralement low carb et méditerranéenne. Voilà pour l'amande. Dans la suite du podcast, nous verrons les propriétés nutritionnelles des noix, nous verrons quelles sont les meilleures entre les noix de pécan et les noix de Grenoble. Nous verrons également s'il faut consommer des noix de cajou, mais également des noix de macadamia. Nous verrons aussi si la pistache est saine pour la santé et dans quel cas. Nous verrons enfin la cacahuète, même si ça n'est pas un oléagineux mais une légumineuse. Nous verrons la noix du Brésil, la noix du Pili, et nous aborderons évidemment la noisette. Avant de dresser donc le classement ultime des meilleurs fruits secs oléagineux, à la fois pour la santé et pour la ligne, et en plus de cela, nous allons voir dans quel type de diète il est possible pour chaque fruit sec oléagineux de les intégrer, ou s'il faut plutôt les limiter, et cela en fonction de chaque type d'alimentation, que ce soit la diète cétogène, l'alimentation globalement low carb, mais aussi s'il faut ou pas consommer ce genre de fruits secs oléagineux dans des diètes standards relativement transformées. Nous verrons que les choses ne sont pas aussi simples et le classement sera extrêmement utile lorsque vous ferez vos choix au supermarché. Je vous dis donc à très vite dans la zone membre du guide Blueness sur blueness.com.